Hey, on va se diriger tout de suite vers la salle des nouvelles de Belgique. On va se connecter au Père Samuel, Anne-Marie Delcambre et Johan Bourlard, dont j'ai reçu le livre. Mais ça malade en essayant tes deux oreilles ce matin. Dont j'ai reçu le livre Le Djihad, les textes fondateurs de l'islam face à la modernité. Johan Bourlard et avec bien sûr en préface Marie-Thérèse Urvois. M'a fait parvenir ce livre. Est-ce que vous êtes là, vous trois?
Oui, bonjour Ismaël.
Vous êtes en direct de Belgique. Nous allons parler avec Joanne Bourlard, Anne-Marie Delcambre et le père Samuel. Bonjour à vous trois ce matin. Comment allez-vous?
Ça va très bien pour moi. Et vous, Joanne?
Oui, très bien.
Bonjour Ismaël, je suis le père Samuel. Bonjour à tous.
Bonjour père Samuel, comment allez-vous?
Bonjour, merci, très bien.
Alors, le sujet dont vous voulez aborder ce matin, je vous laisse l'expliquer comme il faut, s'il vous plaît.
Alors aujourd'hui, nous comptions parler du fameux film sorti par le député néerlandais Geert Wilders, un film qui parle de l'islam, sans phare, sans mettre de gants. Et je voudrais commencer cette petite exposé par la déclaration du secrétaire Ban Ki-moon, qui le 28 mars, lendemain, 28 mars 2008, au lendemain même de la diffusion de ce petit film sur Internet, le secrétaire général de l'ONU a déclaré « Je condamne dans les termes les plus vigoureux la diffusion du film anti-islam et insultant de Geert Wilders. Il n'y a pas de justification possible aux discours de haine ou aux incitations à la violence. Le droit à la libre expression n'est pas en jeu ici. » Voilà, ça c'est un extrait. Donc, premièrement, on se demande comment un secrétaire général de l'ONU se mêle de condamner un petit film de 15 minutes diffusé sur Internet.
Exactement.
Deuxièmement, il se permet de dire que le film de Geert Wilders est un film anti-islam et insultant. Alors que quand on regarde le film, c'est un petit film de 15 minutes qui fait appel à des faits réels. Ce ne sont pas des acteurs qui ont été engagés, ce sont des images vraies qui mettent en scène des personnages vrais. Alors troisièmement, il dit « le droit à la libre expression n'est pas en jeu ici ». Et ensuite, donc ce secrétaire général se réjouit de voir que le gouvernement des Pays-Bas a tout fait pour empêcher la diffusion de ce film.
Joanne Bourlard, est-ce que juste avant que vous poursuiviez ce que vous dites, on nous pose tout de suite la question, que veut dire le mot « fitna » exactement ?« Fitna ».
Ah oui, donc fitna, ça vient, donc c'est un mot arabe. Hein,
parce que c'est le titre du film, soit dit en passant.
Bon. Et le premier sens du terme, ça veut dire discorde. Ça veut aussi dire épreuve. Ça veut dire aussi guerre civile.
Ok.
Et donc il y a des versets du Coran, comme le verset 8:39, sourate 8, verset 39, qui ordonne aux musulmans de combattre les infidèles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sédition, de discorde, donc de fitna, et que la religion soit entièrement celle d'Allah. Donc c'est le 8:39. Alors, donc je reviens donc à ce que je disais au sujet du secrétaire général. Non seulement il condamne dans les termes les plus vigoureux le film de Wilders, alors que Wilders n'a rien inventé dans son film, et deuxièmement, il dit il se réjouit de voir qu'on met tout en œuvre pour empêcher sa diffusion. Donc, Il s'attaque en plus à un droit fondamental dans une démocratie, dans un pays libre, qui est celui de la liberté d'expression. Donc on voit une fois de plus qu'une fois qu'il s'agit de critiquer l'islam ou de regarder l'islam en face, tel qu'il est, eh bien ça pose problème jusqu'au plus haut niveau, puisque le secrétaire général de l'ONU s'est lui-même mêlé de condamner ce petit film de 15 minutes.
Mais moi je voudrais demander au père Samuel ce qu'il pense, parce qu'il a vu le film « Fitna ». Et donc, ce qu'il en pense, lui, en tant qu'expérience, hein, parce que je réponds à certaines critiques qui disent « oui, mais c'est son expérience, lui, à la fois de prêtre catholique, de chrétien, de connaisseur de l'islam, d'écrivain, ce qu'il a pensé en voyant ce petit film. »
Mon père. Ben, j'ai regardé très attentivement. Pour moi, c'est l'émeute, le désordre, la guerre civile, la confrontation, c'est ça qui veut dire la fitna. Eh bien, un jour viendra, Ici en Europe, au cœur de l'Europe, il y aura la guerre civile entre les musulmans que les Européens les accueillent gentiment mais très naïvement. Et les petits-enfants européens vont être persécutés par le désordre, par la confrontation à cause de cette fitna, parce qu'il est écrit dans le Coran, oui, combattez les infidèles jusqu'à qu'il n'y ait plus de fitna, c'est-à-dire de séduction, pour que tous soient vient à Allah, le Dieu des musulmans. Donc, c'est une épreuve, en même temps une tentation contre les Européens. Je crois que les Européens doivent réagir et ne doivent pas être naïfs. En ce qui concerne Ban Ki-moon, le secrétaire de l'ONU, de quoi se mêle-t-il? Il devrait s'occuper des opprimés, des malheureux, des évêques qui sont persécutés, égorgés en Irak, ou devrait vraiment s'occuper de tout cela? Eh bien, Ban Ki-moon désire vraiment supprimer la liberté de l'expression. Moi, je condamne ses propos résolument.
Parce qu'encore une fois, ici, donc, concernant Geert Wilders, on l'accuse de répandre la haine. Mais justement, ce n'est pas le cas, c'est un peu comme le Père Samuel. Le Père Samuel, Geert Wilders, ne veulent pas répandre la haine, ils la dénoncent, la haine. Mais pour la dénoncer, il faut la montrer, cette haine. Alors, ça peut parfois paraître au courant de ce qu'est l'islam violent, l'islam militant. Mais il n'y a pas d'avance, il faut le montrer. Il faut le montrer pour qu'on se rende compte de quoi il s'agit, pour ne pas qu'on dise « oui, ils parlent en l'air, ils inventent ». Mais non, nous n'inventons rien. Geert Wilders n'invente rien. Dans son reportage, il a fait référence à 5 ou 6 versets du Coran qu'il appuyait par des images de personnalités musulmanes contemporaines, par exemple le président iranien Ahmadinejad, par exemple un imam du Liban, je crois, qui au moment, en plein reportage, on le voit qu'il déclare qu'il reprend à son compte une phrase de Mahomet, et en dégainant son épée, il dit « Vous combattrez tous les juifs au point que si l'un d'eux se cache derrière une pierre, la pierre dira « Musulman, un juif est caché derrière moi, viens, tue-le ». Cette phrase, cet imam, ce mollah qu'il la prononce là, devant la place publique, devant des milliers de gens, ce n'est pas sa phrase à lui, il ne l'a pas inventée, il ne fait que la reprendre des recueils de traditions qui reprennent les paroles de Mahomet. C'est une parole de Mahomet appliquée à la lettre aujourd'hui. Donc, Geert Wilders n'invente rien. Il ne fait que reprendre les paroles de musulmans contemporains qui eux-mêmes ne font que se baser sur les textes fondateurs de l'islam, à savoir le Coran et les paroles de Mahomet.
Oui, et moi j'ai regardé attentivement le film et je peux dire, parce que je connais bien leur mentalité, que les musulmans ont été ravis de regarder ce film, surtout ceux qui sont considérés comme islamistes. Pourquoi? Parce que dans ce film, il n'y a pas de provocation, il n'y a pas de Coran jeté par exemple aux toilettes, il n'y a pas d'insultes lancées contre le prophète, non. Il y a des sourates de Coran qui sont psalmodiées par des imams eux-mêmes. Il y a des gens, des musulmans, qui font des déclarations réelles qui ont eu lieu. Il y a une petite fille qui est interrogée et qui dit tout simplement « Qu'est-ce que vous pensez des juifs ?»« Ben oui, ce sont des singes ou des porcs. » Elle est tout à fait mignonne, elle parle, de manière spontanée. Tout cela avec un arrière-fond de musique extraordinairement bien choisie.
Madame Delcambre, oui, est-ce que c'est... Oui. La petite demoiselle qui dit que ce sont des singes, des porcs,
oui,
les juifs. Est-ce que c'est l'image qu'on avait eue avec l'espèce de Mickey Mouse?
Oui, exactement. Bon, exactement. Merci. C'est le genre de petite fille qui dit moins âgée que celle, moins âgée. Elle a 3 ans, celle-là. Donc elle parle, quand on lui dit qu'est-ce que tu penses des juifs? Elle dit ce sont des singes et des porcs. Ah bon, qui a dit ça? C'est Allah, et où est-ce qu'on trouve ça? Fil Qur'an, dans le Coran. Donc, elle a 3 ans, donc c'est pas... Tandis que la petite animatrice, là, dans Maya l'abeille, ou un truc comme elle était beaucoup plus âgée, disons qu'elle avait peut-être 12-13 ans. D'accord. Mais là, non, 3 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que les musulmans, s'ils n'ont pas protesté, c'est qu'il n'y a pas de blasphème. L'habileté suprême de Wilders, c'est qu'il a pris uniquement... des déclarations d'imams, il a pris des faits réels. Donc, et en plus, quand il a pris le mot fitna, la sourate 8, le butin, c'est-à-dire ce qu'on prend à la guerre, les dépouilles de guerre, combattez-les, c'est-à-dire combattez les infidèles, ceux qui ne sont pas musulmans, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Et Wilders, qui s'est certainement entouré de conseillers musulmans, pourquoi il a employé ce mot? C'est qu'il dit que ce qui se passe actuellement aux Pays-Bas, c'est que la venue de ces immigrants-là qui arrivent et qui sont musulmans, ils apportent avec eux leur culture. Et leur culture ne supporte pas l'homosexualité. Il le dit plusieurs fois. L'homosexualité, il y en a un qui a dit « Non, on ne peut pas ». C'est-à-dire, accepter cela pour un musulman, c'est vendre son âme à Satan. Il est obligé de combattre. Et par conséquent, ce que dit Wilders, il dit, dans un pays, les Pays-Bas, qui ont en quelque sorte ouvert la voie à la tolérance pour tout le monde, arrivent, venant d'ailleurs, avec une autre culture, des gens qui menacent la culture oui. du pays.
Moi, je Madame dis... Madame Delcambre, excusez-moi, mais dans le livre que j'ai reçu de Joanne Bourla, oui. juste un petit rappel, dans le préface, on peut y lire parmi les valeurs promues par l'Occident, deux se détachent progressivement, l'idéal démocratique et la liberté de penser. Alors, il est normal que du côté de l'islam, ces deux valeurs ne rejoignent pas du tout l'idéologie de l'islam.
Tout à fait d'accord. Et en plus, ce que je trouve absolument étrange, c'est que dans la déclaration de l'ONU qu'a évoqué Joanne Bourla, j'ai regardé les personnes qui parlent et qui ont porté un jugement. Ils sont tous musulmans. Qu'ils soient tous musulmans, moi je pense que là, il y a une partialité ou un manque d'impartialité qui est réel. C'est-à-dire, comment voulez-vous qu'un musulman puisse accepter un film qui se présente comme mettant en garde contre la violence de l'islam? C'est sûr qu'ils seront contre. Seulement, ils représentent un organisme qui n'est pas musulman. Et là, moi je dis, il y a quand même, c'est bizarre. C'est bizarre parce que les non-musulmans, par qui sont-ils représentés et comment sont-ils représentés?
Les non-musulmans, effectivement, il les a montrés, sont des infidèles. Et lorsque vous les rencontrez, tuez-les au point d'en faire un grand carnage. Il a cité même la sourate du Coran, chapitre 47, verset 4. Chapitre 47, verset 4. Et en arabe, cette fitna, il dit carrément « وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونُ لِلْدِينِ كُلُّهُ لِلَّهِ » Tuez-les partout, vous les trouverez. Si l'apostasie, massacrez-les. Alors, Geert, ce député hollandais, dit ceci « Les musulmans veulent que vous fassiez de la place pour l'islam, mais l'islam ne fait pas place pour vous parce que vous êtes infidèles. Le gouvernement insiste pour que vous respectiez l'islam, mais l'islam ne peut pas vous respecter parce que vous êtes des infidèles. Et les infidèles n'ont pas une place dans les pays musulmans.
Ou du moins, s'ils n'en ont pas, ils n'ont pas une place comme citoyens à part entière. Ils ont leur place, mais à condition d'être dans une situation inférieure à celle des musulmans.
Alors, je voudrais poser la question, ça c'est la fitna, c'est ce qui se passe, quand il y a coexistence entre musulmans et non-musulmans.
Et non-musulmans.
Mais je voudrais parler maintenant du fameux dialogue islamo-chrétien que tous les évêques de la Terre sont là en train d'épouser, si je puis dire. Et c'est grave, parce qu'actuellement, il y a des imams qui ont décidé de dialoguer avec le pape et de dialoguer non pas sur les dogmes, mais sur deux choses qui sont fausses. Je vais vous expliquer pourquoi elles sont fausses. Ils ont dit, mais voilà, les dogmes ne sont pas les mêmes.
Et j'aimerais peut-être rajouter quelque chose, toujours en lien avec le livre de Joanne Bourlard, le djihad, les textes fondateurs de l'islam face à la modernité. Est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il est en on peut l'acheter en librairie?
Bien sûr.
Oui, il est sorti depuis quelques jours. Donc maintenant, on peut en disposer dans les librairies et toujours le commander. On peut le commander, pas de problème.
D'accord. Alors, justement, en page 17, on peut... vous alliez parler, justement, du fameux discours islamo-chrétienté, ou enfin islamo-chrétien, ou quelque chose comme ça, Mme Delcambre, c'est bien ça?
Oui, exactement, parce que...
J'ai deux personnes ici qui mentionnent, enfin, prêtre catholique de l'Église orientale, Louis Massignon, catholique français, et il y a Youkim Moubarak, qui est-ce que c'est les précurseurs de ce discours-là?
Bien sûr que oui. Ce sont eux qui ont, en quelque sorte, introduit ça, c'est-à-dire cette espèce de syncrétisme, ce mélange, cette
islamo-chrétien.
C'est-à-dire ce, voilà, c'est-à-dire islamo-chrétien, ouais. Une sorte ouais. de religion où l'on mélange. Alors, ce qui est grave, c'est que ils se sont aperçus, les imams qui veulent dialoguer, les imams musulmans qui veulent dialoguer avec les chrétiens auprès du pape, ils se sont aperçus qu'il fallait pas qu'ils aillent trop vite. Bon, c'est vrai, l'islam ne croit pas que le Christ ait été crucifié, ne croit pas à l'incarnation, à la rédemption, à tout ça. Alors, ouais. ils ont été très malins. Ils ont dit, eh oui, mais nous avons peut-être des choses en commun. Nous pouvons, par exemple, dire, dialoguer sur deux choses. Dieu est amour, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et là, le Père Samuel va vous dire que c'est un dialogue. On est totalement pipés dans cette histoire. Parce que c'est faux. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, ça ne, c'est pas la même chose chez les musulmans et chez les chrétiens.
Les chrétiens disent « Dieu est amour, aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis. » Tandis que dans l'islam, « opprimez ceux qui vous oppriment, tuez vos ennemis là où vous les trouverez. » L'islam ne peut pas accepter « Dieu est amour. » Tandis que nous autres, nous disons « Dieu est amour » et Dieu nous dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Si nous croyons au Dieu des musulmans, le christianisme n'a pas pas raison d'exister, parce que l'islam, c'est la négation totale du christianisme. Au risque de choquer, je peux vous dire, Dieu des chrétiens ne peut pas envoyer un bandit, un guerrier, chef de guerre, guerrier lui-même, Mahomet, après Jésus-Christ, 7 siècles ou 6 siècles, qui va nier la mort de Christ, sa divinité, son incarnation, sa crucifixion et le Fils de Dieu et sa résurrection. Si le Christ n'est pas mort, crucifié, ressuscité, fils de Dieu, le christianisme n'a pas raison d'exister. Donc, nous condamnons carrément, nous disons, la religion islamique, c'est totalement antichrist et nous n'acceptons jamais la religion islamique.
Ça, je laisse Dieu au Père Samuel, mais moi, je vais prendre le prochain. Quand on parle d'amour du prochain, alors permettez-moi de me rouler par terre en riant. Pourquoi ? Parce que l'amour du prochain concernant les musulmans, c'est l'amour du musulman pour le musulman. Al-muslim, akhul muslim, le musulman est le frère du musulman, pas le frère du non-musulman. Et le musulman est au-dessus du non-musulman. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Le pauvre pape, excusez-moi avec tout le respect que je lui dois, qui n'est pas plongé dans les textes, qui ne connaît pas l'islam, qui n'est pas chaque jour en train de feuilleter le Coran. Il dit, ah ben oui, pourquoi pas, amour de Dieu, amour du prochain. Mais c'est une monstruosité d'engager le dialogue là-dessus. D'abord, l'amour de Dieu, Dieu n'aime pas, parce que le mot amour, c'est humain, et Dieu n'est pas humain. Et deuxièmement, l'amour du prochain, les musulmans disent que le musulman doit aimer son frère, mais pas celui qui n'est pas musulman. Et ça, je veux bien être confronté à tous les musulmans de la terre, qu'ils viennent, et verront que dans le droit musulman, comme dans la sunna, comme dans le Coran, c'est impossible qu'un musulman réserve la même amitié, la même confiance, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés, le même respect à celui qui est leur frère en religion musulman, et celui qui au contraire est considéré comme dans la fidolal in mubin, dans un égarement évident.
Oui, petite précision quant à l'amour de Dieu. C'est vrai que cette expression, les musulmans la prennent en horreur, parce que l'amour étant un sentiment humain, les musulmans ne supportent pas qu'on applique à Allah un sentiment humain. Donc, contrairement aux chrétiens qui regardent Dieu comme un père qui les aime, les musulmans, eux, regardent Dieu, Allah, comme un maître qui doit être obéi. Le musulman est l'esclave de Dieu. Il doit,
c'est pratiquement de la dictature, Johan.
Oui, Allah est un maître tout-puissant qui doit être obéi et qui ne souffre pas justement qu'on conteste ses ordres. Et donc ses ordres contenus dans le Coran et dans l'exemple donné par le prophète doivent être suivis. Sinon, vous n'êtes qu'un mécréant qui est digne d'être combattu, voire d'être tué si vous n'êtes pas prêt à vous convertir.
Alors, c'est très important parce qu'actuellement, toute l'Église... un islamologue que je ne veux pas citer ici parce qu'il ne veut pas être cité, disait que parmi tous les évêques, il y en a peut-être 4 ou 5 qui restent encore attachés à la vérité de l'Église catholique. Les autres font un dialogue islamo-chrétien, les uns pour préserver leur couscous, les autres pour préserver leur situation, d'autres pour leur... c'est-à-dire pour différentes raisons politiques, politico-économico, tout ce que vous voulez, sociales. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils emmènent les catholiques dans le mur. Parce que si vous regardez bien ce que veut l'islam et ce que veut le catholicisme, je prends le catholicisme, c'est radicalement opposé. Alors, moi, je vais vous dire, en tant qu'athée, je serais passé au fil de l'épée. Eux, les chrétiens et les juifs, ils paieront un impôt et ils seront humiliés. Mais c'est mieux, ils auront la vie sauve. Mais moi, en tant qu'agnostique athée, alors là, je m'excuse, je dis, je veux sauver ma peau et je dis, vous nous emmerdez. Pas on de christianisation peut-être et pas d'islamisation.
Madame Delcamp, si vous pardonnez-moi, mais on a une question pour le Père Samuel. Je vais vous donner la conclusion qu'on me fait part via le live@rocky.com du film Fitna. Les musulmans veulent que vous fassiez de la place à l'islam, mais l'islam ne fait pas de place pour vous. Okay? Le gouvernement insiste pour que vous respectiez l'islam, mais l'islam n'a pas de respect pour vous. L'islam veut dominer, soumettre et cherche à détruire notre civilisation occidentale. En 1945, le nazisme a été vaincu en Europe. En 1989, le communisme a été vaincu en Europe. Maintenant, c'est l'idéologie islamique qui doit être vaincue. Défendons notre liberté. Alors, qu'en pensez-vous, Père Samuel?
Eh bien, vous avez raison. Les nazis de demain en Europe, c'est absolument l'islam. Les Européens vont regretter amèrement d'accueillir ce fléau islamique ici en Europe et au Canada et aux États-Unis. Oui. Comme les Européens ne connaissent rien de l'islam, comme disait Mme Delcambre, nous sommes tout le temps dedans. Nous étudions l'islam depuis 40 ans. Je suis certain, si les dirigeants européens savaient qu'est-ce que c'est l'islam, n'accueilleraient jamais, non seulement deux familles, même pas une famille. L'islam, c'est le nazisme même de demain. L'islam, c'est l'intolérance. Vous avez cité le mot. L'islam domine, ne serait pas dominé. C'est Mahomet qui dit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nos évêques, nos prêtres, nos cardinaux sont logés, nourris, chauffés, pourris dans leur palais. Ils s'en foutent carrément de la population européenne. Si elle est persécutée ou attaquée, la guerre civile va arriver. Je suis convaincu, sûr et certain, je signe et j'engage ma signature, d'ici 10 ans, 15 ans, il y aura la guerre civile entre les musulmans que nous accueillons bêtement, naïfement, et les Européens. Alors, vigilance, oui, on a vaincu le communisme, oui, on a vaincu vraiment le nazisme, mais l'islam, ça va être horrible ici en Europe. Oui, nous devons aussi démolir l'idéologie islamique qui domine.
Mais en faisant attention, et je pense que le père le pense aussi, de ne pas confondre les hommes et les textes. Faire attention aux textes, oui. Les montrer comme c'est dans le film, les montrer partout, les ouvrir, les commenter, mais ne pas stigmatiser, ne pas attaquer, ne pas humilier les hommes. Parce que parmi les hommes, il y en a qui peuvent être de bonne volonté, il y en a qui peuvent être athées, il y en a qui... Et c'est pour ça que je fais très attention à la séparation. Regardez, il y a eu la conversion de Magdi à l'âme. Conversion au christianisme, bon, il peut y avoir aussi des musulmans qui choisissent d'être athées, il peut y avoir aussi des musulmans qui décident de ne pas du tout s'occuper de religion, mais faisons attention de distinguer les hommes des textes.
Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention à la distinction, parce qu'effectivement, il y a des musulmans qui prennent conscience des dangers de leur religion. Malheureusement, jusqu'à présent, les seuls musulmans qui sont aptes à parler librement de leur religion sont ceux justement qui n'en font plus partie. Je fais la remarque dans mon livre. Les seuls musulmans capables d'adopter une réflexion critique sur leur religion et de dire que oui, il y a des problèmes dans l'islam, il y a des problèmes dans les textes, les seuls qui sont capables de le faire sont ceux qui ont renié leur religion et qui ne sont plus musulmans. Alors il faudrait maintenant que la réflexion passe à un stade supérieur qui est de faire vraiment en sorte que des intellectuels musulmans réfléchissent profondément sur leur religion et se disent vraiment ouvertement qu'il y a effectivement un problème.
Oui, parce que quand le père Samuel dit « attention, l'islam est en danger », lui, il parle, voilà le problème est le suivant, il parle des musulmans bien islamisés. Plus le musulman est bien islamisé, plus il se rapproche des textes. Et par conséquent, en collant au texte, il est chosifié. Il devient un robot qui va aller pour tuer. Et plus il s'éloigne des textes, plus il redevient humain. C'est-à-dire que vous avez d'une part, les hommes ne peuvent pas être essentialisés. Les hommes sont libres en principe. Mais dans la mesure où ils vont être bien endoctrinés, bien islamisés, ils ne sont plus des hommes libres. Ils deviennent des hommes endoctrinés. Et c'est ce que veut dire le père Samuel. Il dit le danger, c'est pas les musulmans, c'est l'islam lorsqu'il est en quelque sorte véhiculé par des serviteurs qui deviennent à appliquer à la lettre tout, sans aucune réflexion, sans aucune critique.
Au sujet de la conversion, que le pape a baptisé quelqu'un en Italie, effectivement, Mahomet, le prophète arabo-musulman, a dit « Celui qui change de religion, tuez-le. » Et si l'apostasie, tuez-les partout où vous les trouverez. Alors, c'est pas possible qu'un musulman n'ose jamais devenir chrétien ou autre religion parce qu'il va être massacré, parce que Mahomet a dit « Celui qui change de religion, tuez-le. » Tandis que Jésus a dit « Je suis doux et humble de cœur. » Mahomet dit « Je suis un rieur sanglant, un prophète du carnage. » C'est inacceptable. Dans la Déclaration des droits de l'homme, article 18-19, tout homme peut changer sa religion, choisir une autre religion. Tandis que chez l'islam, ça n'existe pas. Celui qui change de religion, tuez-le. C'est absolument ridicule, absurde, et nous devons combattre tout cela résolument.
Il y a un problème concernant les musulmans dits modérés, n'est-ce pas? Les musulmans qui disent, voilà, nous sommes des intellectuels, nous réfléchissons, nous changeons, tout ça. Moi, je dis, pourquoi essaie-t-il de dire le contraire des textes, à savoir, Dieu est amour, l'islam c'est l'amour du prochain, l'islam c'est la tolérance, l'islam c'est la paix. Pourquoi veulent-ils recourir au mensonge? Il vaudrait mieux qu'ils disent, les textes sont violents, nous refusons cette violence des textes et nous luttons contre. Là, à ce moment-là, je dirais, ils sont crédibles et je les crois. Mais dans la mesure où ils veulent nous faire croire que blanc c'est noir, noir c'est blanc, je dis, ce sont des hypocrites menteurs et c'est vrai que mon combat, c'est contre leurs mensonges. Parce que les gens ne s'y retrouvent plus. Et comment voulez-vous que les gens disent, voilà, pourquoi les islamistes prennent-ils des bombes pour en quelque sorte suivre l'exemple du prophète? Eh bien, parce que c'est écrit. Alors qu'ils disent, c'est écrit, et là je les croirais, mais qu'ils ne disent pas, oh mais non, c'est une mauvaise interprétation. Je ne veux plus de leurs mensonges.
Voilà, et c'est pour ça que je reviens au film de Geert Wilders, qu'on accuse d'attiser la violence. En fait, encore une fois, Geert Wilders n'a rien inventé. Il ne fait que montrer les passages les plus intolérants et les plus violents de l'islam, passages du Coran et des paroles de Mahomet qui sont toujours d'application aujourd'hui, à l'heure actuelle. C'est bien ça ce qui est grave, c'est que le Coran et les paroles de Mahomet qui datent d'il y a plusieurs siècles sont aujourd'hui encore prises en compte par des centaines de millions de musulmans, respectées, vénérées comme une parole sacrée et auxquelles on ne peut pas toucher et qu'on ne peut pas remettre en question, et donc qui sont toujours d'application. Et c'est bien là que le danger réside, c'est que des paroles d'il y a 13 siècles sont aujourd'hui encore d'application. C'est comme si aujourd'hui encore nous vivions avec les lois de Charlemagne ou du roi Dagobert. C'est complètement impensable.
Il a montré, ce Hollandais, ce vénérable député hollandais, il a montré comment Theo van Gogh, un artiste hollandais, a été massacré, égorgé par un musulman en Hollande même. C'est absolument inacceptable. Il a montré comment 40% dans les villes en Hollande sont des musulmans. C'est inacceptable. Il a montré que 3000 Américains ont été assassinés à New York avant l'invasion de l'Irak. C'est inacceptable. Il a montré 200 Espagnols ont été égorgés dans les trains. C'est inacceptable. Il a montré comment 4 Pakistanais musulmans ont bombardé les métros à Londres. Alors, des centaines de morts et de blessés ici en Europe à cause de l'islam et du Coran. Pour moi, je préfère rester sans Dieu et de croire au Dieu des musulmans.
Voilà. Ismaël, êtes-vous toujours là?
Je suis toujours là. Et on a une question pour vous. De la part de Fantomas via le live@rocket.com. Que pensez-vous, dans le fond, de cette sourate, pas de contrainte en religion, Alors, c'est sourate 2, verset 256.
Oui, ben ça, je l'explique bien dans mon livre, que bon, ce verset qui a reçu toutes sortes d'interprétations, qui n'est même pas un verset complet, ce ne sont que quelques phrases. La ikra hafiddin, c'est juste quelques mots au sein d'un même verset. Mais c'est tromper les gens sur la marchandise, on va dire, parce que il n'est pas du tout question de liberté religieuse au sens où on l'entend dans nos démocraties modernes. Pas de contrainte en religion, ça veut dire notamment que il n'est pas permis d'empêcher quelqu'un de devenir musulman. Quelqu'un qui veut se convertir à l'islam, il faut le laisser venir. On n'a pas le droit de le contraindre.
Et croyez-vous, par exemple, à celui qui a conçu le film, qui a réalisé ce court-métrage, est-ce que vous ne croyez pas qu'il peut risquer quelque chose dans toute cette histoire? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui pourraient peut-être essayer de menacer sa vie ou enfin, suite aussi à la déclaration du secrétaire de l'ONU?
Ah oui, donc pour que le secrétaire général de l'ONU réagisse, c'est qu'il y a justement des pressions, des menaces. Mais donc ça confirme en même temps que cette litanie qu'on entend tout le temps, cette chanson « L'islam, religion de paix, d'amour et tolérance » ne se vérifie pas. L'islam n'est pas une religion d'amour, de paix, de tolérance. Sinon, pourquoi tant de menaces contre ceux qui montrent certains aspects dérangeants de l'islam? Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui, beaucoup de gens qui savent, mais qui se taisent justement à cause des menaces et des pressions. Mais bon, il y a des gens un peu plus courageux, comme Geert Wilders, qui osent parler, qui osent dénoncer, des gens comme le père Samuel, comme Madame Delcambre, qui osent parler. Mais il faut parler, parce que on se gorge de tous des discours de démocratie, respect des droits de l'homme, lutte contre le fanatisme. Mais juste, nous y sommes. Nous sommes revenus au moment où une idéologie totalitaire est en train de refaire surface. Et c'est justement maintenant qu'il faut prendre le taureau par les cornes et dire « maintenant, ça suffit, il ne faut plus rien laisser passer et il faut dénoncer les mensonges et les silences coupables. »
Eh bien, au verset 282, « L'Aïkra Hafiddin, il n'y a pas de contrainte à religion », Johan a bien expliqué. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut devenir musulman, on ne peut pas l'empêcher, il doit devenir musulman. Donc nous autres, nos musulmans, les chrétiens, les orthodoxes, les protestants, les anglicans, pour les musulmans, nous sommes des charlatans parce que tous nos sacrements sont donnés par la très sainte Trinité, c'est-à-dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'islam dit, ceux qui croient comme quoi la Trinité existe sont des infidèles. Et lorsque vous les rencontrez, tuez-les, massacrez-les. Comme je disais tout à l'heure, je préfère être sans Dieu que de croire au Dieu des musulmans, absolument. Donc, c'est catastrophique. Le Dieu des musulmans, c'est totalement antichrétien. Et l'islam, c'est la négation totale de tout le christianisme. Pour eux, le christianisme et les autres religions n'existent pas. L'islam seul qui compte. Donc c'est absurde de la part de Dieu des chrétiens qui va envoyer un prophète 6 siècles après Jésus-Christ qui va nier tout ce qui est Jésus-Christ. Donc c'est absurde et c'est ridicule. Et la question de dialogue, je condamne le dialogue islamo-chrétien 300%.
Oui, donc au sujet de la pas de contrainte en religion, il s'agit bien de la sourate 2, verset 256. Donc je démontre dans mon livre toute la fausseté des démonstrations actuelles qui consistent à dire que l'islam est une religion tolérante par rapport à ce verset justement qu'on cite tout le temps et qui n'est que de la poudre aux yeux jetée aux yeux des occidentaux ignorant tout de l'islam.
Mais moi je pense que ce ne sont pas forcément les chrétiens, même si le père a raison de dire ça par rapport au christianisme, ce ne sont pas les chrétiens qui risquent le plus. Je le redis, ceux qui risquent le plus, ce sont les athées, les agnostiques, les homosexuels, les adultères, tous les libres penseurs, tous ceux qui ont trouvé, si je puis dire, droit de cité dans une civilisation moderne occidentale, et tout ça serait gommé. Et moi, je dis, je suis prête à sortir dans la rue, avec même à la limite, il faut brandir une croix, peu importe, mais je ne veux pas qu'on m'impose, alors que j'ai refusé le pouvoir de l'Église tout-puissant, je ne veux pas qu'on m'impose une islamisation triomphante. J'ai le droit de dire non, non, non. De même que je refuse Mein Kampf avec le nazi, je dis, je refuse un texte qui me dit que je n'ai pas le droit d'exister. J'ai le droit d'être infidèle, bordel de merde.
Eh bien, depuis 14 siècles, l'islam menace les non-musulmans. Vatican même était saccagé, le pape payait l'impôt à l'islam avant les croisades 250 ans. Tunisie, Maroc, Algérie étaient des chrétiens. Aujourd'hui, pratiquement, il n'y a plus de chrétiens. Alors, l'Espagne était saccagée par l'islam. Heureusement, nous avons Isabelle la catholique. Il les a chassés. Félicitations. Alors, l'Égypte, la Syrie, la Turquie, l'Irak, Jordanie, Jérusalem, il n'y avait pas de musulmans.
On est un peu plus critique, Père Samuel, Anne-Marie Delcamp et Joanne Bourlard, avec vous ici via le live. Et permettez-moi de vous lire aussi des gens qui sont un peu contre ce que vous dites d'une certaine façon. Ça fait plusieurs semaines que vous venez ici le lundi discuter avec nous en direct de Belgique, nous ici au Canada. On vous écoute, je vous écoute. C'est très enrichissant. Et cette personne nous dit, écoutez, c'est pas avec des mots qu'on combat l'islam, c'est avec des armes. On pousse le bouchon ici même en disant que fumier d'intello, ces mecs comme nous autres qui nous allons faire botter les culs, et pour eux, nous ne les aiderons même pas. C'est assez de savoir si l'islam est comme ceci ou cela, c'est une saloperie. Comment s'en débarrasser, on vous pose la question assez crue, et on vous brasse un peu, là. C'est pas en écrivant des bouquins et en faisant au passage un peu de fric qu'on réussira à écraser ou à faire disparaître l'islam. Comment ou qu'est-ce qu'on peut faire pour justement stopper? On n'y va pas avec des gants blancs ici via le live @rocket.com. On vous pose la question assez directement, quoi.
Oui, ben pourtant, nous ne sommes pas des guerriers de formation, donc on serait bien maladroit pour prendre les armes et défendre tels des généraux ou des chefs d'armée l'Occident. Mais nous prenons les armes qui sont les nôtres, à savoir les outils intellectuels qui sont en notre possession. Et sachez que, pour démentir ce que ce monsieur disait, ce sont les convictions qui dirigent le monde. Les idées avant tout, et après les actes suivent. Mais il faut d'abord avoir des idées avant d'agir.
Là, vous m'obligez, Ismaël, je ne voulais pas en parler, mais oui, je vais en parler quand même.
Allez-y.
Ça suffit de faire des livres, etc. Mais je pense que ça suffit aussi. Les gens qui prennent n'importe quel moyen. Moi, il y a un film, Fitna, qui est une copie. Mes propos ont été pris sans ma permission pour faire une sorte pour choquer, pour envoyer des bombes comme ça sur Internet, avec mes propos sans mon consentement. Je dis qu'à ce moment-là, ces méthodes-là, ce sont des méthodes de voyous et de pirates. Et je dis, si on ne combat pas par la science, alors je dis, moi, j'ai rien à faire. Moi, je suis un peu comme le père par rapport quand il dit, nous, chrétiens, nous n'avons rien à faire si l'islam vient. Moi, je dis, si on ne peut pas avancer des arguments, à ce moment-là, ne faisons rien. Que ces gens achètent des mitraillettes, que ces gens passent au fil de l'épée, mais je dis, ce n'est pas mon éthique, ce n'est pas ma morale, et je dis non.
Mais je crois, je suis sûr et certain de ce que je vais dire. Comme en Afghanistan, il n'y a pas de chrétiens, c'est interdit les églises. En Arabie Saoudite, la même chose, les églises, les chrétiens, la Bible sont interdits complètement. Ils ont chassé les chrétiens de l'Arabie Saoudite. Eh bien, les Européens, s'ils ne veulent pas qu'il y ait la fitna, la guerre civile, le désordre ici en Europe, doivent chasser l'islam de l'Europe, du Canada et de l'Amérique. Mais vous allez dire, c'est trop tard, je vous comprends. Mais je crois qu'il faut penser à cela, sujet à réflexion.
Moi, je dirais qu'il faut commencer par dénoncer les choses et arrêter de faire le lit de l'islam, arrêter de lui ouvrir toutes les portes et de l'installer en Europe. Parce que si on lui fait de la place, bientôt, il prendra toute la place. Et nous, qui ne sommes pas musulmans, que nous soyons juifs, chrétiens, incroyants, nous n'aurons plus qu'une petite place de minorité, de minorisé, de méprisé. Moi, je dis, il faut arrêter de faire de la place à l'islam en tant que religion, en tant qu'institution. Il faut arrêter ça, arrêter ce mouvement.
Et moi, ce que je ne comprends pas, et ça, je m'adresse à tous ceux qui sont les gauchistes, les intellectuels, qui sont islamophiles, pourquoi on fait une différence de traitement entre l'islam et les autres religions? Quand il s'agit du catholicisme, une simple petite phrase, par exemple, peuple déicide, et tout le monde monte au créneau et dit, c'est affreux, regardez les religions qui sèment les guerres, etc. Quand il s'agit de l'islam, on n'a pas le droit de critiquer. Mais je dis, si toutes tous les textes des religions doivent être critiqués. Et contrairement à ce que dit le père Samuel, ce ne sont pas les hommes que je refuse. Ce sont leurs idéologies et leurs religions quand ils présentent un danger. Donc là, je dis, c'est attention, attention. Quand je suis assez contre le monsieur qui dit « arrêtons les livres et prenons les armes » parce que j'ai dit « on sait ce que ça veut dire, les nazis, les fachos, ils voudraient qu'à ce moment-là que tous les immigrés soient passés au fil de l'épée ». Moi je dis non, je regrette. Un immigré qui s'insère, un immigré qui veut en quelque sorte vivre dans le pays avec la culture du pays, je dis oui. Mais celui qui est bien islamisé, qui vient transporter son islamisation pour pouvoir faire chier le monde, je dis non.
Peut-être une dernière question, peut-être deux dernières questions, ou plutôt un commentaire et une dernière question, je devrais dire. On vous traite, écoutez, c'est sûr que c'est plus ou moins, faut avoir un peu le côté positif et aussi le côté négatif des auditeurs, Père Samuel et Anne-Marie Delcamp, mais aussi Joanne Bourlard. On lui dit, écoutez, il ne faut pas discuter avec ces gens-là. La seule solution, c'est de faire feu, et c'est pas avec des discussions qu'on va réussir à faire quelque chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quoique, moi, j'ai ma petite idée aussi en arrière de cela. Des fois, il faudrait aussi ne pas juste parler, mais passer à l'action. Mais est-ce que les politiciens vont avoir le courage de le faire et de stopper, peut-être d'une manière un peu plus virile, cette progression de l'islam du côté de l'Europe et aussi du côté du Canada, soit dit en passant, c'est de plus en plus évident. Même du côté américain, c'est au niveau des États-Unis, c'est fou à quel point de mosquées et de ce genre d'établissements qui regroupent des musulmans, Anne-Marie Delcamp, Père Samuel et Joanne Bourlard. Alors, du côté canadien, même chose. Du côté canadien, on subventionne même certaines mosquées du côté de Québec, de la province, une province du Canada. Je pourrais même vous dire qu'il y a des mosquées à Montréal qui sont subventionnés à même les impôts des contribuables. Bien sûr, le gouvernement québécois dira le contraire, mais dira que non, ce n'est pas vrai, mais c'est totalement faux. Autre question, la question que je voulais vous poser, de toute façon, si nous prenions les armes, nous dit-on via le live@rocket.com, ne pensez-vous pas qu'on serait encore traité d'inquisiteurs ou enfin de nouvelles croisades? Probablement, je présume.
Mais enfin, réfléchissez, Ismaël. Pourquoi on va arrêter les mosquées, etc., si on ne sait pas pourquoi on les arrête? C'est pour ça que les musulmans sont plus intelligents que ceux qui vous disent « prenons les armes ». Eux, ils ne veulent pas que l'on voit les textes violents. Parce que si on voit les textes violents, on a des raisons d'interdire, on a des raisons de frapper, on a des raisons d'expulser. Mais si on ne connaît pas les textes, eh bien on se dit « une mosquée égale une église, égale une synagogue, égale un temple bouddhiste ». C'est à la connaissance qui fait que on peut dire « ça c'est dangereux et ça ne l'est pas ». Et c'est ce que ne veulent pas les intellectuels. En disant « l'islam, paix et tolérance », on ne veut pas montrer ce que Wilders a montré, et par conséquent, on ne peut toucher à rien. C'est quand on sait que c'est dangereux que l'on peut éjecter, que l'on peut expulser, que l'on peut à la limite même dire « allez, dehors, sortez ». Mais si l'on ne sait pas, pourquoi vous allez expulser? Au nom de quoi? Donnez-moi la raison, donnez-moi la preuve.
C'est ça, c'est exact, je suis parfaitement d'accord avec Mme Delcambre. Pour bien agir, comme je disais, il faut d'abord avoir des idées claires sur le sujet. Surtout que des choses pareilles, prendre les armes pour chasser certaines personnes, c'est une décision qui est lourde de sens. Enfin, c'est violent quand même, c'est extrême. Donc, pour bien agir, pour agir avec raison et avec équilibre, il faut d'abord connaître, il faut d'abord savoir de quoi on parle et à propos de quoi à quel propos on va agir.
Vous parlez des croisades, au sujet des croisades, moitié de l'Europe a été saccagée avant les croisades, 4 siècles. Au sujet de l'islam, depuis 14 siècles, sont des combattants par le djihad contre les non-musulmans. Eh bien, nous voulons la paix, mais un jour viendra, eux-mêmes, ils vont nous persécuter au cœur de l'Europe même, ils vont déclarer la guerre, je suis sûr et certain. Les Européens vont les tolérer, mais eux, quand ils deviennent forts, ils ne tueront jamais ni les Européens, ni les enfants européens. Pour moi, chaque mosquée, c'est un nucléaire en Europe téléguidé et caché.
Et vous savez, je crois que l'être humain, de toute façon, au cours de sa vie, est amené parfois à faire des changements, à changer d'opinion, à changer de religion. Même, bon, par exemple, comme ce journaliste italien d'origine égyptienne, Magdi Allam, qui s'est converti au catholicisme. Moi, je dis que si on parle vrai, si on dénonce les aspects les plus intolérants de l'islam, je suis sûr qu'il y a des musulmans qui vont réfléchir et qui vont même se dire « mais je ne peux pas rester, je ne peux pas continuer à adhérer à une telle idéologie ». Et donc, il y a toute une partie de gens honnêtes parmi les musulmans qui vont changer de religion. Et à ce moment-là, les musulmans, les vrais, les militants qui se cachent pour le moment, qui se cachent, vont révéler leur vrai visage. Et à ce moment-là, les idées seront claires et les camps seront bien délimités. On saura qui pense quoi. Et là, tout ira mieux.
Juste pour vous faire rigoler un tout petit peu, il y a un certain Adil Sharkawi qui est hautement surveillé par les services secrets canadiens ici, parce qu'on croit qu'il serait un agent dormant d'Al-Qaïda. Et l'individu, cette semaine, un imam s'est ouvert, excusez-moi, en bon québécois, s'est ouvert la trappe, s'est ouvert la bouche, hein, a parlé, et a clairement identifié Adil Sharkawi comme un agent dormant, et en plus qu'il tenait des propos un peu du principe que Mme Delcambre, vous m'avez déjà spécifié au niveau du Coran, que bien sûr les femmes blanches sont le butin, que elles sont une forme de butin de guerre. Est-ce que c'est bien ça, un butin de guerre ou quelque chose comme ça, qu'ils s'approprient, ces musulmans s'approprient dans le fond, lorsqu'ils arrivent à quelque part, au nom d'Allah, au nom de Mohammed, quoi.
Parce que ils pensent que toute la terre doit revenir à Allah. Mais le problème, quand le père Samuel parle, il dit toujours les musulmans bien islamisés, c'est-à-dire les musulmans qui collent au texte. Bien sûr, les musulmans qui connaissent pas leur texte, les musulmans. C'est-à-dire que, en fin de compte, il incarne, pour être encore plus précis. Mais ce qu'il veut dire, lui, c'est le Coran en action, les textes en action. Il spécifie bien, mais bon, comme ça, le français n'est pas sa langue maternelle, il va au plus rapide. Mais sinon, c'est toujours ça dans sa pensée.
Vous avez raison, hein, Marie Delcambre, je suis né en Orient, j'ai vécu dans les pays musulmans pendant 35 ans. Tous nos ancêtres ont été massacrés par l'islam. L'expérience passe la science, bien sûr, nous sommes des rescapés des musulmans. Comme disait Vono au député hollandais, il y a en Europe actuellement 50 millions de musulmans. Moi, je dirais, je signe, j'engage ma signature, en l'an 2060, nous aurons 300 millions de musulmans en Europe. Avec la démographie galopante, je crois qu'il faut être très, très vigilant de l'accueil de l'islam ici. C'est eux qui vont déclarer la guerre aux non-musulmans. Nous, on va les aimer, ça c'est sûr, mais je crois qu'il y a limite en tout.
Et je crois que l'Europe aussi, donc les Européens, qu'ils soient catholiques, juifs ou incroyants, doivent oser affirmer les valeurs européennes, les valeurs qui ont construit l'Europe, les valeurs judéo-chrétiennes, les valeurs de l'antiquité gréco-romaine, la philosophie grecque, l'humanisme, les droits de l'homme, tout ça. L'Europe doit être fière de son héritage culturel. Les Européens et les Occidentaux en général doivent cesser de battre leur coulpe et de dire « nous sommes coupables de tous les maux qui sont sur la terre, nous sommes coupables de la colonisation, nous sommes coupables des deux guerres mondiales ». Il faut arrêter cette culpabilisation systématique, et c'est une culpabilisation qui entraîne quoi ? Mais qui entraîne justement l'afflux de l'islam en Europe, parce qu'on n'ose plus résister, on n'ose plus affirmer son identité et son héritage culturel, et alors on se met à plat ventre devant cet islam qui trace sa route et qui avance, hein, vu qu'il ne rencontre aucun obstacle, eh bien il avance, jusqu'au jour où il arrivera en majorité en Europe, et alors là, mais ce sera fichu pour les Européens, ils n'auront plus rien à dire, et ils seront dans une situation de minorité, de minorisé.
Et moi, je vais faire de la peine au père Samuel, je m'en excuse, et à Johan peut-être aussi, c'est que quand même, l'Occident doit beaucoup à la libre pensée. On a cessé de regarder du côté des fables des religions, pardonnez-moi mon père, et on a essayé de faire travailler l'esprit, la réflexion, la logique, la raison. Et tout ça, c'est notre acquis. Même les religions ont été obligées de se plier au regard de la raison. Maintenant arrive le dernier arrivé, l'islam. C'est vrai que l'Occident triomphe actuellement. Il triomphe techniquement, il triomphe du point de vue technologique, il triomphe du point de vue philosophie. Et le monde musulman est là et s'accroche d'autant plus avec vigueur à ces textes. Des textes débiles parfois, il faut le dire, puisque Abélard au XIIe siècle disait « Je ne comprends pas que les pays musulmans aient des philosophes aussi intelligents avec un tissu d'ânerie qui sont dans leurs textes. » Mais c'est ce qu'il dit carrément. Et leurs tissus d'ânerie qui sont dans toutes les religions, parce que c'est très proche des contes de fées parfois, excusez-moi, veuillez m'excuser. Donc je dis « Ce n'est pas uniquement une religion ». C'est-à-dire qu'on n'a pas de raison de faire un statut différent à l'islam de celui des autres religions. Et moi, je dis, la libre pensée a œuvré, la laïcité s'est développée, et devant l'islam, ils baissent tous les bras. Ils ont peur. Et j'ai dit, vous avez peur d'être égorgé, vous vous faites des tas d'histoires, vous avez peur. Le père Samuel n'a pas peur. C'est peut-être la seule raison pour laquelle je dis que ça mérite de combattre à ses côtés. Il n'a pas peur.
Je vous remercie, Madame Dalcambre. Vous combattez devant un homme. Ce n'est pas parce que je suis prêtre. Vous combattez devant un homme, pour un homme, tout simplement.
Voilà.
Alors, si l'islam est paix, amour et tolérance, pourquoi cette haine contre les non-musulmans? Il y a 6 ans, j'ai dit un mot au sujet de l'islam. C'est-à-dire, j'ai dit ceci. Chaque enfant musulman bien islamisé sont des bombes à retardement contre les Européens. Et voilà, je suis entraîné dans les tribunaux. C'est longtemps. Où est la liberté de l'expression? Je crois que nous devons garder la liberté de l'expression, quoi qu'il arrive, vaille que vaille, coûte que coûte.
Johan?
J'aimerais vous dire merci. Johan Borlard, je m'excuse, et Anne-Marie Delcambre, le père Samuel, je vous remercie. Je dois mettre fin à l'entrevue, à l'entretien, parce que ça fait déjà... j'en ai donné plus que le client en redemande. Même, je vous ai dépassé... plus d'une demi-heure en temps normal. C'était pour vous faire plaisir et aussi pour me reprendre de la semaine passée. Veuillez accepter toutes mes excuses. Serait-il possible encore de revenir la semaine prochaine, lundi prochain, pour expliquer encore aux auditeurs, justement, d'autres facettes de l'islam?
Je pense que la semaine prochaine, comme moi je serai empêché, je pense que là vous aurez un duo, mais un duo de choc comme vous avez. Et puis moi je reprendrai avec
toujours
Skype la semaine. Voilà. C'est-à-dire que c'est le système du trio est toujours valable, mais simplement, la semaine prochaine, je suis empêché, donc ça sera un duo.
Oui, voilà, donc le père et moi sommes prêts à prendre la relève pour la semaine prochaine, et alors la semaine suivante, avec plaisir, avec Anne-Marie Delcambre, pour reprendre le trio.
Certainement. Mais
je vous remercie pour votre gentillesse, Ismaël.
Ça m'a fait plaisir. Je vous remercie aussi, Joanne Bourlard, pour le livre. Merci à vous trois d'être venus discuter si gentiment avec nous et de nous éclairer encore plus notre lanterne par rapport à justement l'islam qui prend de plus en plus de place et qui nous...
Est-ce que vous avez reçu mon livre?
Certaines. J'ai reçu votre livre, Père Samuel.
Merci.
Je vous remercie à vous trois. Passez une excellente journée.
Merci également, Samuel. Au revoir.
Au revoir. Alors, c'était le Père Samuel, le Anne-Marie Delcambre et, bien sûr, Joanne Bourlard, dont le livre est sorti et peut être et disponible en ce moment au niveau de toute bonne librairie. Du côté de la Belgique, bien sûr, peut-être qu'il y en aura quelques exemplaires ici, du côté du Canada. Le titre, Le djihad, les textes fondateurs de l'islam face à la modernité. Vous pouvez y retrouver des gens très compétents, tels qu'au niveau du préface, Marie-Thérèse Urbois, célèbre, justement, islamologue du côté de l'Europe.